Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 12 avril 2023. En direct de Washington, Eric Manirakiza, d'abord le sommaire. L'ONU presse la junte au Mali de respecter l'échéance électorale de 2024 dans un rapport adressé au Conseil de sécurité. En Tunisie, la police dispersait des demandeurs d'asile et migrants africains campant devant le siège du ACR. Joe Biden en Irlande du Nord pour célébrer la paix et encourager le dialogue. Le président brésilien Lula en Chine pour rencontrer Xi Jinping et l'inviter à visiter Brasilia. Au Yémen, un échange de prisonniers prévu dès jeudi sur fond d'espoir de paix après 8 ans de guerre. Une paire de baskets de Michael Jordan vendue 2,2 millions de dollars. C'est à suivre dans notre page sport. Et en économie, le FMI révise à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2023. Pour l'instant, le journal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les militaires au pouvoir au Mali à accélérer le processus de transition en vue de restituer le pouvoir à des civils élus dès le début de l'année prochaine, conformément à leurs engagements. Cet appel a été formulé dans un rapport présenté au Conseil de sécurité, John Lindon.
Dans son rapport trimestriel, Antonio Guterres relève les progrès accomplis comme la rédaction d'un projet de constitution et la création d'une autorité de gestion des élections. Selon le secrétaire général des Nations Unies, à moins d'un an de la fin prévue de la transition, il incombe aux autorités maliennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer ce processus de sorte que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans les délais convenus. La junte vient d'annoncer le report sine die d'un référendum sur la Constitution. Le patron de l'ONU exprime sa préoccupation devant l'impasse ou la paralysie persistante où se trouve l'application de l'accord de 2015 dit d'Alger. La mise en œuvre de cet accord entre les groupes armés du Nord et l'État est jugée primordiale pour la stabilisation du pays. Or, les signataires, notamment les groupes Touareg, sont à couteau tiré avec la junte. M. Guterres parle, lui, des climats de méfiance profonde.
En Tunisie, la police a eu recours hier au gaz lacrymogène pour disperser une centaine de migrants africains et demandeurs d'asile et qui avaient établi un campement devant le siège du HCR à Tunis. Nani Tetalani.
Installés dans un camp improvisé de tentes, sans toilette ni eau, ces ressortissants d'Afrique subsaharienne, cherchant pour la plupart à être évacués vers des pays tiers, sont en colère après la suspension par le HCR de l'examen de leur dossier. Ils ont érigé des barricades devant le bâtiment onusien avant une intervention musclée de la police. D'après le ministère de l'Intérieur, la police est intervenue à la demande du HCR et 80 migrants ont été interpellés, dont 30 placés en garde à vue. Dans une lettre ouverte, un groupe de demandeurs d'asile et migrants subsahariens explique qu'ils s'étaient réfugiés près du HCR après avoir été chassés de plusieurs villes de Tunisie suite à un discours en février du président Kais Saied contre les migrants africains. Sur sa page Facebook, le HCR en Tunisie a précisé avoir stoppé les activités d'enregistrement et de pré-enregistrement temporairement dans le monde.
Chaque semaine, des centaines de migrants refoulés d'Algérie viennent s'échouer à Assamaka, premier village à la frontière du Niger. Les 1500 habitants d'Assamaka sont submergés par ce voisinage incontrôlable. Ces migrants sont désormais plus de 4500 Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Syriens et Bangladais. Le centre de transit géré par l'OIM est débordé par l'afflux et ne prend en charge qu'environ un tiers des refoulés. Des milliers de personnes s'entassent contre des murs et sous des bâches de fortune pour trouver un coin d'ombre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden est ce mercredi en Irlande du Nord sur les traces de ses ancêtres maternels, où il va tenter d'encourager le dialogue. La visite du chef de l'exécutif américain intervient dans un contexte politique délicat entre le refus depuis un an du parti unioniste démocrate de prendre part au gouvernement de cohabitation mis en place par l'accord signé en 1998 et les secousses provoquées par le Brexit. La priorité de Joe Biden est de maintenir la paix si difficilement négociée il y a 25 ans en Irlande du Nord. Négocié avec une active participation américaine, l'accord signé le 10 avril 1998 date cette année-là du Vendredi Saint, a mis fin à des décennies d'affrontements meurtriers entre unionistes, surtout protestants, et républicains à majorité catholique, avec l'implication de l'armée britannique. Les chefs de la diplomatie et de la défense américains ont échangé avec leurs homologues ukrainiens mardi, alors que les États-Unis cherchent à rassurer leurs alliés, dont Kiev, après la fuite de documents classifiés du renseignement américain. Le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a réitéré le soutien continu des États-Unis et que Washington prenait cette fuite de documents classifiés très au sérieux. Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, qui a inculpé Donald Trump le 4 avril, a porté plainte contre un élu républicain à la Chambre des représentants pour empêcher ses tentatives d'ingérence dans son dossier au milieu du déluge d'attaques des conservateurs. Dans sa plainte, déposée mardi à New York devant la justice fédérale, le procureur accuse Jim Jordan, président de la commission judiciaire de la Chambre, de mener une attaque sans précédent et inconstitutionnelle contre son enquête, parlant aussi d'obstruction. Le Congrès n'a aucun pouvoir pour superviser des poursuites pénales d'un État américain, écrit dans sa plainte le procureur, qui vise à bloquer toute tentative de l'élu et de ses collègues de le convoquer afin qu'il soit entendu devant le Congrès. Le ministre américain de la Sécurité intérieure a affirmé à Panama que Washington voulait élargir les voies sûres, régulées et légales d'émigration vers les États-Unis comme alternative aux dangereux itinéraires clandestins. Il a rencontré hier à Panama les ministres des Affaires étrangères panaméens et colombiens. Quelques 100 000 personnes ont traversé cette jungle depuis le 1er janvier, soit 6 fois plus que durant la même période de 2022, selon les données communiquées par les services migratoires du Panama. Le président brésilien Lula se rend en Chine pour une rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping vendredi. Lors de cette visite, il entend inviter son homologue à se rendre à Brasilia, à Clermont-Régibourg.
Nous devons consolider notre relation avec la Chine, a affirmé le président brésilien avant de partir, disant vouloir inviter Xi Jinping au Brésil pour montrer des projets qui ont besoin d'investissements chinois. Lula doit arriver en Chine aujourd'hui et assister demain à Shanghai à l'intronisation de l'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff à la tête de la Banque des BRICS, groupe de pays émergents qui réunit le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. Lors de sa rencontre avec Xi vendredi à Pékin, il doit aussi aborder le conflit en Ukraine. Le Brésil et la Chine n'ont pas imposé de sanctions à la Russie et espèrent pouvoir jouer un rôle de médiateur. Il s'agit de la 4e visite officielle en Chine pour Lula, qui a débuté en janvier son 3e mandat après un premier passage à la présidence de 2003 à 2010. Il a promis de remettre son pays au cœur de la nouvelle géopolitique mondiale après l'isolement sous son prédécesseur Jair Bolsonaro.
Demain jeudi, un échange de prisonniers impliquant des centaines de détenus de la guerre doit débuter au Yémen. Ce geste offre ainsi une petite lueur d'espoir dans un conflit meurtrier qui dure depuis 8 ans. Rosine Mounezer.
Près de 900 prisonniers, dont la plupart combattaient avec les rebelles houthis soutenus par l'Iran chiite, seront transférés entre le Yémen et l'Arabie saoudite, pays sunnite qui dirige une coalition militaire appuyant les forces gouvernementales yéménites. Cet échange de prisonniers, le plus important depuis octobre 2020, va durer 3 jours, a déclaré Majid Fadael, porte-parole officielle de la délégation gouvernementale chargée de négocier l'échange. Les Houthis vont libérer 181 prisonniers, dont des Saoudiens et des Soudanais, en échange de 706 personnes détenues par les forces gouvernementales, conformément à un accord annoncé le 20 mars en Suisse. L'accord a été conclu quelques jours après l'annonce du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, deux pays rivaux qui entendent rétablir leurs relations diplomatiques après une interruption de 7 ans. Mohamed Al-Boukhaïti, membre du conseil politique des Houthis, a déclaré que les discussions avec la délégation saoudienne portent maintenant sur la levée totale du blocus, le retrait de toutes les forces étrangères du Yémen et la libération de tous les prisonniers.
Les États-Unis se sont engagés mardi à défendre les Philippines, la mer de Chine méridionale, au moment où les deux alliés historiques ont lancé leur plus grande manœuvre militaire conjointe, destinée à contraindre l'influence de la Chine dans la région. 18 000 soldats sont concernés. Pour la première fois, les opérations comprendront des tirs à munitions réelles en mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée par Mohamedou Oumfa.
Le FMI a annoncé lundi être parvenu à un accord avec le gouvernement burundais en vue de la mise en place d'un programme d'aide de 261 millions de dollars. Le programme s'étend sur 40 mois et vise à rétablir la soutenabilité extérieure et de la dette tout en permettant la reprise économique face aux chocs qui se sont succédés, a expliqué la chef de la mission, Mme Atou Diouf, citée dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré l'appel à une mobilisation internationale massive en faveur de la Somalie, alors que son organisation attend toujours une aide humanitaire de 2,6 milliards de dollars qui n'est financée pour le moment qu'à hauteur de 15%. La combinaison du terrorisme et de la sécheresse crée les conditions parfaites d'une crise et nécessite ce soutien, a-t-il affirmé mardi après-midi depuis la ville somalienne de Baidoa. Le FMI a légèrement révisé à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2023, mais s'attend à ce que les principales régions économiques évitent la récession, selon les données publiées mardi à l'occasion de ses réunions de printemps à Washington. L'institution anticipe désormais une croissance mondiale de 2,8% en 2023, en léger recul par rapport à son estimation précédente en janvier.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Suite des matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Oui, face à l'AC Milan ce soir, Naples devra se passer de Victor Osimhen, blessé aux adducteurs. L'attaquant nigérian revenu blessé du dernier rassemblement de sa sélection fin mars a déjà manqué les deux derniers matchs de Naples, dont la défaite contre l'AC Milan 4-0 en championnat le 2 avril. Toujours ce soir, un an après leur quart de finale épique, le Real Madrid et Chelsea de Frank Lampard se retrouvent au même stade de la compétition, au Santiago Bernabeu. Hier dominé dans le jeu, mais ultra réaliste, l'Inter Milan du portier camerounais André Onana a fait un grand pas vers le dernier carré en l'emportant à Lisbonne sur la pelouse de Benfica 2-0 en quart de finale aller. Les Italiens n'ont plus atteint les demi-finales depuis 2010 sous les ordres d'un certain José Mourinho et un grand Samuel Eto'o fils. Ils avaient alors remporté le trophée cette année. Dans l'autre match d'hier, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez, resté sur le banc, a surclassé sur sa pelouse le Bayern Munich 3-0. Sadio Mané est entré en cours de jeu, mais n'a pas pu empêcher la défaite des Bavarois.
Un club de foot tunisien se retrouve sans joueur, Yacouba.
Oui, le club amateur de Gardi Maou, évoluant en 4e division du championnat de Tunisie, a suspendu ses activités après l'immigration clandestine d'une trentaine de ses joueurs vers l'Europe. L'annonce est faite par son président Jamil Meftahi, qui affirme que sa formation a arrêté l'activité et suspendu les matchs depuis 20 jours. Il impute cet exode à un manque de ressources financières du club et des joueurs. Nous ne pouvons pas acheter d'équipement, de maillots et de chaussures de sport et les joueurs ne bénéficient pas des subventions financières, soutient Jamil Meftahi. Selon lui, la plupart des joueurs âgés de 17 à 22 ans ont gagné l'Europe, soit par la mer, soit en allant en Serbie, pays pour lequel les Tunisiens n'avaient pas besoin de visa jusqu'à récemment. Ils ont ensuite traversé illégalement les frontières vers d'autres pays.
Eh bien, une paire de baskets portée par Michael Jordan, vendue 2,2 millions de dollars.
C'est un record, la paire de baskets portée par la légende de la NBA durant sa dernière finale de championnat en 1998 avec les Chicago Bulls a été vendue pour la somme record de 2,2 millions de dollars selon la société d'enchères Sotheby's. À ce tarif, Michael Jordan confirme son statut de roi des enchères pour des vêtements de sport de collection en battant son propre record pour des baskets, 1,4 million de dollars en 2021, tandis qu'il détient déjà celui du maillot le plus cher, 10,1 million de dollars en septembre 2022.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Eric Manilakidza, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale a clôturé hier le processus d'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 3, où se trouve la province du Nord Kivu en proie à l'insécurité. Des millions d'électeurs sont restés à l'écart de ce processus. Des Congolais demandent à la CENI de prolonger les opérations jusqu'à la mi-mai. Davantage avec Zanem Netizaidi.
Aux premières heures de ce mardi, des barricades ont été érigées sur les artères principales des quartiers du nord-est de la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Les jeunes des mouvements citoyens contestent la fin des opérations annoncées par la CENI. Espoir Aspirine de la Lucha explique.
Nous demandons à la CENI de ne pas clôturer l'enrôlement tant que tous les citoyens congolais ne se sont pas encore enrôlés. Si la CENI ou bien le gouvernement congolais ne parvient pas à comprendre ce qu'exige la population, nous cesserons de descendre dans la rue pour exiger que tous soyons enrôlés.
À ces derniers jours d'enrôlement, tous les centres de Goma et de Nyiragongo ont été inondés des requérants qui étaient estimés à des milliers. Il est impossible de les satisfaire, estime le député national Jean-Baptiste Kasekwa, qui suggère une prolongation jusqu'au 16 mai.
La CENI a l'obligation de prolonger le délai d'enrôlement jusqu'au plus tôt le 16 mai. La CENI a donné à la ville de Goma 96 kits pour 502 945 électeurs attendus. Or, un kit enrôle 45 personnes par jour. Cela signifie que pour la ville de Goma, la CENI devrait nous donner 117 jours. Prétendre clôturer l'enrôlement le 11 avril, nous aurons totalisé seulement 50 jours d'enrôlement. Nous ne pouvons pas accepter.
Au cas où le processus d'enregistrement et enrôlement des électeurs serait clôturé comme prévu ce 11 avril, la province du Nord Kivu perdra également beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale à la prochaine législature, soutient Evariste Iragi, analyste.
En 2018, la province du Nord Kivu était la troisième province qui avait beaucoup de sièges, au total 40. Mais si on ne parvient pas à enrôler beaucoup plus de personnes, il y aura réduction du nombre de sièges parce que le nombre d'enrôlés détermine la répartition des sièges qui va devoir intervenir dans les jours à venir.
Selon les derniers communiqués de la commission électorale publiés le 1er avril, des jetons devaient être distribués à tous les requérants devant les centres et les centres fermeront leurs portes au fur et à mesure que ces détenteurs des jetons seront achevés. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Gabon, le gouvernement lance ses premières assises nationales de lutte contre la vie chère. Rendez-vous présenté comme celui de toutes les solutions pour soulager le panier de la ménagère. La rencontre va durer 2 jours pour tenter d'apporter des solutions à l'inflation tous azimuts dans les secteurs des transports, de l'alimentation et de l'habitat. Le point avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
André Zogué est un des acteurs de la société civile invité aux Assises nationales contre la vie chère. Il porte le combat de la coalition nationale des syndicats des transports.
Ma présence aujourd'hui, c'est pour que le président de la République puisse prouver aux yeux du monde, aux yeux de la République gabonaise, qu'il aime son peuple. Nous avons terminé avec les assises provinciales. C'est ces assises provinciales, maintenant c'est les assises nationales. Le président doit marquer un pas. Nous devons proposer à ceux qui aient moins de barrières policières.
Des barrières policières ou douanières qui accentuent l'inflation sur les marchés. Suzanne Dikandou dirige le syndicat des commerçants de Libreville.
Le commerçant ne peut pas payer un régime de bananes à 5 000, il va venir vous donner 5 000 francs. Prix de vente égal, prix d'achat plus, les dépenses, et puis on trouve les bénéfices. J'ai acheté 2 000. Et sur la route, j'ai encore dépensé combien pour amener le régime de bananes là-ici. C'est pourquoi j'ai demandé que l'État n'a qu'à prendre le carburant en charge. et tout est descendu. Nous arrangeons les routes. Libreville, il y a la nourriture, mais il n'y a pas les routes.
La lutte contre la vie chère, un combat de tous les gouvernements, mais qui reste sans suite de la vie de partenaires sociaux. Djibril Manganga Zengi est secrétaire général du syndicat national des commerçants du Gabon.
On lutte, pour être plus précis, c'est que ce qu'on donne comme résolution au sort de ces assises-là ne soit pas appliqué en totalité. Tout ce qui concerne la vie chère ici concerne l'alimentation, donc tout tourne normalement autour de l'alimentation. Dans cette là que nous agissons.
Des assises prévoient un examen minutieux de la structure des prix, à l'issue duquel le gouvernement fixera les marges bénéficiaires acceptables sur la base de la nouvelle mercurielle. Nicole Janine Lydie Roboti, ministre gabonais de l'économie.
Nous avons cette nouvelle mercurielle qui permettra effectivement de pouvoir maintenir les prix qui ne cessent, je le rappelle, ces prix ne cessent d'augmenter à l'international. Donc nous avons trouvé un mécanisme qui permet de pouvoir les contenir.
En dehors de contenir l'inflation, le gouvernement entend aussi adopter d'autres mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Il s'agira entre autres de lutter contre la parafiscalité et de supprimer tous les prélèvements non prévus par la loi des finances. Libreville, Ismaël Obionzé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. L'ex-rébellion Touareg estime qu'il n'y a aucun moyen de construire un avenir commun avec Bamako. La veille, elle a dénoncé le survol de la ville du Nord par des avions de l'armée. Une montée de tension qui a poussé le groupe de médiateurs à faire des propositions concrètes visant à relancer l'accord pour la paix. L'accord d'Alger est-il menacé et faut-il craindre une reprise des hostilités? Quelle solution pour une paix définitive dans le nord du Mali? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Soudan, le 11 avril, c'était hier, marque le 4e anniversaire d'un soulèvement populaire qui a conduit l'armée à renverser le président Omar al-Bashir, mais les espoirs d'un régime civil ne se sont pas concrétisés. Le mouvement démocratique soudanais a lutté avec l'armée pour le pouvoir. Depuis Khartoum, Henry Wilkins fait le point sur l'état de la révolution emblématique du Soudan. Récit signé Yacouba Ouedraogo.
Pour les manifestants qui ont participé à la révolte populaire qui a renversé Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 3 décennies, le régime civil dont il rêvait reste élusif. En octobre 2021, après 18 mois de gouvernement civil, une nouvelle junte a pris le pouvoir par un coup d'État et reste à la tête du pays. Mohamed Ali, organisateur de manifestations quasi quotidiennes à Khartoum, estime que l'armée doit être sous le contrôle d'un gouvernement démocratique.
Je veux dire que l'autorité militaire ne doit pas être indépendante et isolée. C'est une étape essentielle pour garantir le processus de démocratisation. Les gens doivent y croire.
Les militaires affirment depuis plusieurs mois qu'ils vont mettre en place un gouvernement de transition et passer le pouvoir aux civils. Un projet d'accord politique en ce sens devrait être signé le 6 avril, mais il a été reporté. En mars, Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi, vice-présidente du Parti national Ouma, impliquée dans les négociations, a déclaré à la VOA
« Ce gouvernement à large assise, nous en avons désespérément besoin pour assurer le succès de la période intérimaire à venir. Dans un plan B, nous pourrions envisager un gouvernement intérimaire pour une courte période, d'un an à 3 mois. Pendant ce temps, nous essayons de régler nos différends. »
Mais les manifestants estiment que ce processus ne devrait pas être prolongé. Ils soulignent que les fonctionnaires et les enseignants n'ont pas été payés depuis des mois et que les services de l'État sont paralysés. Djibril Ibrahim, ministre des Finances.
Les forces politiques doivent s'asseoir autour d'une table et trouver un moyen de former ce gouvernement civil et je ne pense pas que cela soit impossible. Nous en sommes proches aujourd'hui.
Les analystes estiment que les dirigeants militaires cherchent à retarder le passage à un régime civil afin de consolider leur pouvoir. Cameron Hudson est du Centre d'études stratégiques et internationales.
Plus la situation se prolonge, plus l'armée a la possibilité de dissimuler sa main dans les sociétés financières, de développer des liens diplomatiques plus profonds qui vont contrebalancer la pression exercée par des sources internes ou externes.
Alaa Al-Karib de l'initiative stratégique pour les femmes de la Corne de l'Afrique estime que l'absence de progrès crée une situation dangereuse.
La situation générale est très problématique. Si l'on ajoute à cela la question de l'insécurité dans toutes les régions en conflit ou sortant d'un conflit, la situation devient dévastatrice et effrayante.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit alarmé par la montée des tensions et a appelé à un nouvel élan en faveur d'un régime civil pour résoudre la situation.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Ségiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Obtenir une éducation complète tout en conservant son identité religieuse peut être difficile dans certaines salles de classe américaines, mais il y a 140 écoles islamiques accréditées aux États-Unis qui visent à faire exactement cela. Rivan Dwiastono de la VOA a visité une de ces écoles dans l'état du Missouri. Le récit est de Ginny Niwa.
À une vingtaine de minutes du centre-ville de Kansas City, dans le Missouri, environ 200 élèves fréquentent l'école islamique du Grand Kansas City.
C'est plus facile pour nous de pratiquer notre religion. Il n'y a pas beaucoup de facteurs qui nous arrêtent, car dans d'autres écoles, il faut demander des heures précises pour aller prier.
Fondée en 1989, l'école vise à préparer les jeunes musulmans à être de bons citoyens de la société diversifiée de l'Amérique.
La communauté a décidé, en quelque sorte, qu'on veut sauver les enfants et le plus important est de sauver leur identité en tant que musulman.
Mais vous n'avez pas besoin d'être musulman pour la fréquenter en tant qu'étudiant ou postuler pour travailler à l'école islamique du Grand Kansas City. Cette école privée accréditée au niveau national utilise le même programme que la plupart des écoles de l'État du Missouri, avec en plus des études religieuses et l'apprentissage de l'arabe.
J'ai vu le développement non seulement sur le plan islamique, mais aussi académique. Ils ont fait un travail incroyable. Ma fille, qui pensait qu'elle n'était pas bonne en maths, est là, dans le Math Count, un concours national de maths.
Fazila Saïd a inscrit ses trois enfants ici et a trouvé que l'environnement confessionnel était utile à chacun d'eux.
Mais la directrice de l'école admet qu'il a été difficile d'embaucher suffisamment d'enseignants de qualité pour créer cet environnement.
C'est l'un des grands défis que nous avons. Nos enseignants sont certifiés, ils sont diplômés d'ici, la plupart d'entre eux ont une maîtrise. Et si vous comparez le salaire que nous leur versons aux écoles publiques, il y a une grande différence. Il est plus bas.
Mais les étudiants affirment que tout le monde tire le meilleur parti des ressources limitées.
Nous avons récemment lancé un nouveau club de tir à l'arc. Chaque membre a dû payer $100 pour l'équipement. Mais puisque nous avons tous contribué, nous avons finalement obtenu l'équipement maintenant.
L'école islamique du Grand Kansas City est l'une des quelques 140 écoles islamiques accréditées à travers les États-Unis.
Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital. Passage à l'hôpital, on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais fait la paix, on s'y préfère.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Eric Manirakiza, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et vos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.